Je ne vais pas m'attarder trop sur la question qu'on avait déjà posée la dernière fois, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui caractérise d'une façon générale l'évangile de Saint Jean dans toute la révélation. Ce serait très intéressant de le faire un peu au terme. Alors je vous avais dit qu'il fallait essayer de découvrir dans Saint Jean un ordre de sagesse. Et que cet ordre de sagesse, si on essaie de le découvrir progressivement dans l'évangile de Saint Jean, c'est ce qu'il faut faire toujours, se mettre à l'école de Saint Jean. Ça, je crois, très important pour nous. Se mettre à l'école de Saint Jean pour découvrir d'une façon ultime le grand mystère de la révélation. L'Apocalypse, la première épître, l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, vous commencez tout de suite par le prologue, la charte de la contemplation de Marie à la croix, puis l'espérance eschatologique d'un Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste nous révèle ce qu'il est parce que justement, on lui pose la question, que dis-tu de toi-même? Et puis troisièmement, troisième moment, le mystère de la vocation chrétienne. Jésus qui se choisit des amis. Et on voit bien que c'est le choix des amis, parce que c'est un choix personnel, à la différence des synoptiques. Dans les synoptiques, on a l'impression que c'est un coup de filet qui en prend 12. Tandis que ici, exprès, il y a un rythme qui est rompu. Ce n'est plus les 12, c'est les 5. Et je crois que ça nous fait tout de suite réfléchir pourquoi c'est 5. Alors, je crois qu'on peut comprendre que si l'évangile de Jean reprend tout ce qui est donné dans la révélation, il est quand même très beau et très grand de regarder que dans la Genèse, il y en a 5. Qui sont unis d'une manière particulière à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et le Benjamin. Et il y a un parallélisme entre ces 5 et les 5 apôtres. Je ne peux pas savoir si Jean y a pensé, ça, c'est pas dit. Mais personnellement, je crois que nous pouvons établir ce parallélisme. C'est important, puisque Dieu parle non seulement en se servant de la parole humaine, mais en se servant des hommes, de sorte qu'on comprend mieux le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus, le Dieu de Jean, d'André, de Pierre, de Philippe, de Nathanaël. Il y a un lien personnel d'amitié. Et tout commence par ce lien personnel d'amitié. Dieu fonde tout sur le lien personnel d'amitié. Dans l'ancienne alliance, c'est net. Avant Moïse, on verra Moïse. Moïse, c'est le législateur, c'est tout à fait autre chose. Tandis qu'au contraire, avant Moïse, c'est vraiment ce lien personnel avec ces 5. Et vous voyez pourquoi les 5 ? C'est parce que dans le cœur de Jacob, il y en a 2 qui lui sont particulièrement unis, à cause de Rachel, Joseph et le Benjamin. Et pour lui, d'une certaine manière, il n'y a que ces 2. Et que ce sont ces 2 qui sont ses fils de prédilection. Les fils de la douleur et les fils de prédilection. Et ça va ensemble. Puisque Benjamin, c'est le fils de la droite, alors que Rachel voulait l'appeler fils de la douleur. Puisque Rachel devait mourir pour la naissance de son fils. Et là aussi, c'est très significatif, pour montrer comment son fils passait devant. Et elle acceptait de mourir pour la naissance de son fils. C'est une très belle... C'est une révélation qui est très très forte pour comprendre ce qu'est le Benjamin. Alors, si vous faites le parallélisme entre ces 5 bénis de Dieu et les 5 que Jésus choisit, vous voyez bien que dans l'ancienne alliance, L'ordre n'est pas le même que dans la Nouvelle. Dans l'Ancienne Alliance, tout se termine au Benjamin. Dans la Nouvelle Alliance, tout commence par le Benjamin. Et le Benjamin, c'est Jean. Alors vous avez l'ordre inverse. Jean-André. André, c'est Joseph. C'est sûr qu'il y a là un lien très particulier. Pierre, c'est Jacob. On comprend bien. Et puis, Philippe, c'est Isaac. Il est immolé, il est le médiateur du passant. Il est la médiation dans une immolation. C'est l'aspect victimal. Et puis Abraham, Nathanaël, c'est le seul qui... Enfin, Nathanaël, c'est la foi. Alors on le retrouve. On peut faire ce parallélisme. Je crois que ça nous aide à mieux comprendre les liens entre Jean et la Genèse. La Genèse, théologie de la famille, Jean... théologie de la famille. C'est le grand théologien de la famille. Et d'une famille mystique. Une famille toute divine. À partir du chapitre 2, nous entrons donc dans la vie apostolique de Jésus. Alors je vais très vite, mais je rappelle quand même les deux grandes lumières qui éclairent tout l'évangile de Saint Jean. Et ces deux grandes lumières proviennent de Jean-Baptiste. C'est quand même très important. Jean est lié à Jean-Baptiste. C'est son maître. Son premier maître. Et parce que c'est son premier maître, il comprendra mieux combien Jésus est le maître par excellence. Alors les deux grandes lumières qui commandent, je crois, tout l'évangile de Saint Jean, c'est « Voici l'agneau de Dieu, celui qui a l'épouse et l'époux. » C'est donc le lien entre l'agneau et l'époux. C'est deux grands axes de tout l'évangile de Jean qui sont évidemment très très visibles à la croix. L'agneau, Jésus immolé, l'agneau comme immolé. Or l'agneau n'est parfaitement immolé qu'avec la blessure du cœur. Et la grande vision de l'Apocalypse. Et donc là, nous retrouvons le leitmotiv jusque dans l'Apocalypse, qui est proclamé dans l'Apocalypse. L'agneau comme immolé. C'est l'état victimal de Jésus. Et l'époux, c'est le sacerdoce de Jésus. C'est lui l'époux. C'est Jésus comme prêtre. Donc, à travers tout l'Évangile, au point de départ, nous voyons ça, et à travers tout l'Évangile, jusqu'au terme de la révélation. Et le terme de la révélation, c'est la blessure du cœur. C'est pour ça qu'une théologie mystique du Christ regarde la blessure du cœur. C'est le mystère du Sacré-Cœur, lié au cœur de Marie. Ou exactement, attirant le cœur de Marie. C'est Marie qui est liée au cœur de Jésus. Mais Jésus aussi est lié au cœur de Marie. Mais le premier lien, c'est Jésus qui communique à Marie, qui attire Marie. Et puis le troisième moment, c'est Jésus qui se révèle comme fils bien-aimé du Père. Vous avez donc ces trois grands aspects qui, je crois, commandent tout l'évangile de Jean, l'agneau. C'est la victime. Alors, puisque le sacerdoce du Christ est un sacerdoce d'amour, c'est lui-même qui s'offre. L'époux. Et puis le Fils. Le Fils bien-aimé. L'agapétos. Le Fils bien-aimé. Si vous comparez au synoptique, vous voyez tout de suite combien on est dans une vision de beaucoup plus grande intériorité. Parce que les synoptiques, de façon générale, on prendra toujours les trois grandes fonctions du Christ, royale, prophétique, sacerdotale. Et ça se répète encore de nos jours, hein, et c'est normal. Le Saint-Père le reprend dans son encyclique Redemptor Hominis comme la grande division classique. Si je regarde Saint Jean, je vois qu'il y a quelque chose de particulier. Et c'est peut-être cela qu'on doit saisir le mieux, c'est que le mystère de Jésus, quand Jésus est vu comme agneau, comme époux, comme fils bien-aimé. On voit bien le point de vue du sacerdoce. On voit bien le point de vue du prophète. On voit bien le point de vue royal, le point de vue roi. Mais je dirais que pour Saint Jean, et c'est peut-être cela qu'on doit essayer de comprendre au point de vue théologique, pour Saint Jean, le sacerdoce de Christ est pas un sacerdoce d'amour, parce que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Ce sacerdoce du Fils bien-aimé, c'est le sacerdoce de l'époux et c'est le sacerdoce de l'amour. Parce que le sacerdoce d'amour. Et tout est commandé par ce mystère. Donc vous voyez, il y a d'intériorisation qui se fait dans sa chambre. Pour montrer non pas seulement le mystère du sacerdoce comme médiateur, mais la manière dont il est médiateur. Le mode particulier dont il est médiateur. Il est médiateur comme prêtre, c'est sûr, mais il est médiateur pour l'ordre de l'amour. Je dirais la même chose au niveau du prophète. C'est le prophète de l'amour. C'est normal. Déjà, dans la première alliance, les prophètes étaient les prophètes de l'amour. Puisque les prophètes montrer que l'alliance était l'alliance de l'époux et de l'épouse. Donc, c'était les prophètes de l'amour. Saint Jean va montrer que Jésus est prophète comme prêtre. Et par le fait même, il est prophète de l'amour, comme agneau, comme prêtre, comme époux, comme fils bien-aimé. Et vous retrouvez, c'est normal. Et je dirais pour la fonction royale du Christ, c'est la même chose, cette fonction royale se rattache à son sacerdoce. Son sacerdoce étant un sacerdoce du Fils bien-aimé auquel le Père a remis toute autorité, il a donc l'autorité suprême, l'autorité du roi. Il est donc prêtre et roi. Et sa royauté étant la royauté du Fils bien-aimé, c'est une royauté comme agneau et comme époux. Parce que c'est une royauté d'amour. Je crois qu'il faut réfléchir là-dessus pour comprendre le parallélisme entre la vision des synoptiques et la vision de Jean. Essayez de comprendre ça sans opposer. La révélation va toujours plus loin dans l'ordre de l'intériorité. Là, c'est sûr. Regardez la différence entre le prologue de Jean et les 11 premiers chapitres de la Genèse. Là, on voit tout de suite comment l'aspect descriptif est transformé par une intériorité. C'est normal, puisque toute la révélation nous révèle que Dieu est amour. Et la suprême intériorité, c'est l'amour. Et donc, toute la révélation est faite pour nous révéler que Dieu est amour. Et Jésus vient comme fils bien-aimé pour nous faire comprendre que Dieu est amour. Puisque c'est par la filiation qu'il est dit au Père qu'il nous révèle l'amour. Alors, vous avez donc le premier moment de la vie apostolique de Jésus. De Cana à la multiplication des pains. Chapitre 6. Alors, si vous êtes un peu attentif, faites attention, si vous êtes un peu attentif, je crois qu'on peut dire que les trois premiers moments, Cana, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, Nicodème, ces trois premiers moments sont réservés au peuple d'Israël. Et touche touche directement le peuple d'Israël dans ce qu'il a de plus profond. La famille, la noce, le temple et docteur en Israël. Et nous sommes en présence du cycle de l'agneau. Ces trois premiers moments regardent le mystère de l'agneau, c'est-à-dire la miséricorde. Ces trois grands moments de la miséricorde. Vous avez là toute la théologie de la miséricorde de l'agneau. Deux gestes, un discours. Vous avez ensuite le cycle de l'époux. L'époux est révélé au moment d'une lutte occasionnée par la jalousie. Les disciples de Jean-Baptiste, sont jaloux que tout le monde va vers Jésus. Ils en accusent Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste répond en révélant que Jésus, c'est l'époux. Et donc Jean-Baptiste nous donne la manière de lutter contre la jalousie. Une jalousie spirituelle, pas la jalousie du charcutier, ou de l'aide, ou du psychanalyste. La jalousie vraiment spirituelle, c'est de découvrir que Jésus nous aime d'un amour unique, d'un amour jaloux. Puisqu'on ne peut dépasser la jalousie que par une jalousie supérieure. C'est ça qui est merveilleux. Et alors là, nous avons le cycle de l'époux, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, toujours les rencontres nuptiales auprès du puits, avec le mot d'ordre, « Donne-moi à boire ». Puis, vous avez Jésus face au petit Basileus, à l'officier royal de Capharnaüm, qui vient demander à Jésus la guérison de son fils. Et le troisième moment, Jésus qui guérit le doyen de cette communauté très particulière de Bethsaida. C'est infirme. Le jour du sabbat. Alors ceux qui ont été à Jérusalem savent bien que la piscine de Bethsaida, on croit l'avoir retrouvée dans les fouilles, tout près de Sainte-Anne, pas très loin du temple. Et c'est tous ceux qui sont rejetés, les excommuniés, les rejetés, les malades, les infirmes. Et l'ange du Seigneur descend là, régulièrement. Et le premier qui descend dans le fleuve, à ce moment-là dans la piscine, est guéri. Alors évidemment, la situation de cet infirme, c'est ce qui est le plus pénible, de voir depuis 38 ans tous ceux qui passent devant lui. Il est vraiment dans un état terrible. Hein. Et c'est lui que Jésus regarde. Et c'est lui que Jésus guérit. Le jour du sabbat. Alors on voit très bien ce que ça peut faire comme effet. Le scandale. Et alors, Jésus répond lui-même en face de ce scandale, le grand discours du Fils. C'est la fin du chapitre 5. C'est le grand discours du Fils, un grand discours trinitaire qui est très grand comme discours, comme enseignement de Jésus. Vous avez donc, je crois qu'on peut le faire sans du tout être artificiel, vous avez donc sept moments. Et voyez l'harmonie de ces sept moments. Vous avez donc le cycle de l'agneau. qui est remarquable dans le cycle de l'agneau, c'est que vous avez trois moments de miséricorde. C'est normal, puisque l'agneau, c'est l'histoire de miséricorde. Il porte l'iniquité du monde. Et ces trois moments sont réservés au peuple d'Israël. Le premier moment de la vie apostolique de Jésus, les prémices de la vie apostolique de Jésus, c'est pour son peuple. Vous avez ensuite le cycle de l'épouse. Alors, vous avez deux gestes importants toujours, hein, de bien distinguer les gestes et les discours. Vous avez deux gestes, un discours, un dialogue. Une leçon de théologie. Un discours. Une leçon de théologie. Et deux gestes qui sont les deux gestes les plus extrêmes. Le geste qui transforme l'eau en vin et le geste qui chasse les vendeurs du temple. Alors, quand il s'agit du cycle de l'époux, vous avez cette chose très particulière. Jésus, qui comme époux, brise toutes les frontières. Première frontière brisée, la Samaritaine. La Samaritaine le dit elle-même. Un juif ne parle pas une Samaritaine. Et c'est Jésus qui a pris l'initiative. Donc le cycle de l'époux. Et le cycle de l'époux est commandé par cette eau vive, le symbolisme de l'eau vive. Le don de l'époux, c'est donner l'eau vive. C'est un don gratuit, la dot royale de l'époux. Donc, ici, on commence par un discours, puis deux gestes, l'eau vive, qui sont les deux guérisons, à l'égard de l'enfant qui agonise et à l'égard de l'homme infirme. Et alors vous voyez là deux dons, le don de la vie. Cet enfant agonise, va ton fils vit. Et une sorte de résurrection de l'infirme à la piscine de Bethsaida. Et le jour du sabbat. Puis alors le dernier moment, Jésus révèle un grand discours. Grand discours du Fils. Il montre son lien avec le Père. Et donc il y a une harmonie très belle. Hein. C'est sept moments. On peut découvrir sept moments. C'est intéressant pour nous de découvrir ces sept moments parce qu'on pourrait dire qu'à travers ces sept moments, vous découvrez l'agneau sous la mouvance de l'Esprit. Creuser un peu pour découvrir l'agneau sous la mouvance de l'esprit. Les sept esprits de Yahvé qui sont sur le Messie. La grande prophétie d'Isaïe. Et on comprend que très bien, étant donné que l'évangile de Saint Jean par Jean-Baptiste est très lié à Jean, est très lié à Isaïe, on comprend très bien comment Jean, le théologien, veut nous faire comprendre comment Jésus est mené par l'esprit. Et c'est ces sept moments qui sont le début de la vie apostolique de Jésus. Je peux dire que ce sont les prémices de la vie apostolique de Jésus. Alors vous voyez bien, l'agneau, l'époux, le fils. Le second moment commence à partir de la multiplication des pains. Donc le second grand repas. Un repas diamétralement opposé au premier. Un repas de noces, c'est très bien préparé, de tout temps, sauf de nos jours, n'est-ce pas ? Puisqu'aujourd'hui, on demande à d'autres de le préparer, tandis que de ce temps-là, c'est les membres de la famille, c'est tout le monde qui s'y met, c'est bien, jusqu'au vin, n'est-ce pas ? Et le vin des noces, c'est le vin de tous les amis qui apporte ça. Donc c'est quand même quelque... C'est extraordinaire de voir que dans un repas de noces, la présence de Jésus découvre que les hommes sont incapables d'accomplir jusqu'au bout ce qu'ils ont à faire, même un repas de noces. même à l'égard du fat chéré. Il y a une faille, il y a une faille. Le vin vient à manquer. Ça, c'est très, très extraordinaire. La multiplication des pains, c'est juste inverse. Rien n'est préparé. Et on sent très bien, on sent que les apôtres ne sont pas de bonne humeur. Au moins deux, Philippe et André. Ils ont marché toute la journée. Jésus les a entraînés dans le désert, comme si Jésus n'avait aucune prudence, aucun sens politique. Être meneur de foule, ça représente quelque chose. 5 000 hommes, 10 000 femmes, 15 000 enfants. Vous voyez ce que ça représente, c'est le sommet, je crois que c'est un des grands sommets. Je crois que ça aboutit à un grand sommet de la vie apostolique de Jésus, sans doute au moment de la première année. Je crois, personnellement c'est comme ça que je le vois. Je ne peux pas le prouver, mais il me semble qu'au bout de la première année, il y a comme un grand succès extraordinaire. Tous ces hommes qui suivent Jésus, toutes ces femmes, tous ces enfants. Et Jésus, toute la journée, infatigable. Et les apôtres sont avec un petit gosse, ils racontent des histoires, ils racontent sûrement tout ce que Jésus a réalisé. Et un gosse, il suffit de lui raconter des histoires pour qu'il oublie de manger. Pas une grande personne. Si on essayait de faire ça, vous voyez ça en communauté, un cours et on faisait des histoires, midi, 1 heure, 2 heures, on tapait 3 heures. Un gosse est extraordinaire. C'est la fragilité du gosse. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Pensez-y à ça. Et là, c'est cette chose extraordinaire de dépassement par rapport à ce que représente. Mais les apôtres, eux, ils racontent des histoires, mais c'est moins admirable pour eux que pour le gosse. Ils pensent bien, ils ont l'estomac vide, et ils voient des petits pains et du poisson dans la sacoche du gosse. Ils n'osent pas mettre la main dedans. Évidemment, comme apôtres, ce ne serait pas très édifiant. Ils sont encore des novices de première année, ça va. Alors, ils ont encore un souci d'être édifiant. Hein? Au bout de la troisième année, je crois qu'ils auraient pris carrément. C'est pour ça que c'est la première année, c'est net. Alors, on voit bien, c'est raconté, ça. C'est du vécu, on le voit dans Jean, il suffit de comprendre ce que Jean nous dit, d'un petit détail, de rien du tout. Philippe et André sont de mauvaise humeur. Ils murmurent. Hein? Le murmure souterrain, hein? Des hippopotames, hein, le murmure, c'est très très net, l'intersubjectivité, on dit, non, ça, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie. C'est Jésus qui prend l'initiative. Et il y a le geste de la multiplication des pains. C'est merveilleux de voir ce geste de la multiplication des pains dans le contexte que nous racontons. C'est très très fort, ça. Jésus fait tous les frais. À partir des 5 petits pains du gosse. Heureusement qu'André et Philippe ne les ont pas mangés. Non, ils ont pu en manger autant qu'ils voulaient après. Mais ça venait de Jésus, c'est l'action de grâce. Et les poissons de même, ils prennent autant qu'ils en veulent. On sait très bien la différence du terme, et ça c'est très curieux, la manière dont se termine ce repas. Les apôtres doivent, Jésus a distribué, et les apôtres ramassent les miettes. Spiritualité des contacts. Alors à ce moment-là, les apôtres se sont laissés contaminer. C'est net. On veut mettre la main sur Jésus. On veut mettre la main sur Jésus. On a découvert un prophète, on a découvert quelqu'un, il suffit de faire une bénédiction et le pain se multiplie. C'est merveilleux, pas besoin de travailler. Voyez, immédiatement la réminiscence de la manne. Ça va vite, ça. Surtout que dans le peuple d'Israël, la manne, c'était quand même quelque chose de merveilleux, les fiançailles. avec Dieu, cette espèce de temps extraordinaire où Dieu veillait sur son peuple de cette manière si étonnante tous les jours. Et si on ne pouvait pas prendre pour le lendemain, parce que ça serait gâté, c'est extraordinaire la manne. Alors, on comprend très bien que cette réminiscence, Jésus le sait. Jésus sait qu'on veut le proclamer roi. Alors, c'est le premier moment de la royauté, vous voyez. C'est le premier moment où apparaît la royauté, selon saint Jean. Et Jésus s'en va tout seul. Jésus refuse là. Il s'en allait tout seul. Donc, il y a une brisure, même avec les apôtres. C'est la première brisure de Jésus à l'égard des apôtres. Jésus s'en va tout seul. Et les apôtres comprennent très bien. Jésus ne leur a pas demandé leur avis, n'a pas dit vous partez. La foule, elle est fatiguée, elle a bien mangé, elle n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de bien dormir. Bon, ça, c'est tout à fait normal. La psychose de la foule, c'est comme ça. Bon, les apôtres, c'est différent. Je crois qu'ils se sont réveillés plus vite en voyant que Jésus partait. Et alors, on voit cette course vers Capharnaüm. Ou plus exactement, les apôtres partent d'abord vers Capharnaüm la nuit. Et durant toute la nuit, à cause du vent violent, ils rament à contre-vent. Et au milieu de la nuit, Jésus, sur un rameau, marchant sur l'eau, arrive auprès d'eux. C'est un signe de la présence. Vous voyez, multiplication des pains et la présence. Jean unit les deux signes, ça c'est propre à Jean. Les synoptiques ne l'ont pas uni. Et je crois que ça s'est passé comme ça, historiquement. Parce que je crois que derrière, il y a tout un enseignement du Christ. Le point de vue de la nourriture, le point de vue de la présence. Cette présence au milieu du travail. Vous voyez, l'expérience du travail. Le travail purifie. Quelqu'un qui ne travaille plus, l'imaginaire l'emporte. Le travail purifie. Le travail nous remet dans le concret, dans le réel. Ça, c'est sûr. Tandis qu'autrement, quand il ne peut plus y avoir de travail, alors à ce moment-là, on pâtit, c'est sûr, on doit offrir sa souffrance, mais il y a toujours le danger, parce qu'il n'y a plus ce contact. C'est très très beau de voir ça, que le travail, comme l'adoration, ce sont les deux grandes purifications. L'adoration et le travail. Ce sont les deux grandes purifications qui nous remettent dans le réel. Autrement, c'est l'imaginaire qui l'emporte immédiatement. Et Jésus vient auprès d'eux, au milieu de leur labeur. Et dès que Jésus est là, immédiatement, il touche le bord. Une présence efficace. Dès que Jésus est là, on touche. Donc il y a trois signes. La nourriture, donner gratuitement, à la manière de la main, la présence et l'efficacité de la présence. La foule ne regagnera Capharnaüm qu'après avoir bien dormi, tandis que les apôtres ont travaillé toute la nuit. Et grâce à ça, Jésus est venu au milieu d'eux. Et Jésus était présent. Et le lendemain, nous avons, auprès de la synagogue de Capharnaüm, le grand discours de Jésus du pain de vie. Vous voyez, ce discours du pain de vie est préparé par trois signes pour les apôtres. C'est le grand discours du pain de vie. Et ce discours du pain de vie se termine par Jésus, prophète de l'Eucharistie. Jésus annonce qu'il donnera sa chair en nourriture. Et comme cette parole est considérée comme trop dure, nous avons le premier moment de la séparation à l'égard des disciples du Christ. Donc la lutte intestine. Interne. C'est au moment où Jésus annonce prophétiquement le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, qui est fait pour être le sacrement de l'unité, devient l'occasion de la division. Cette parole est trop dure, parce qu'il y a un trop grand amour. Et ce trop grand amour ne peut pas être reçu. Alors, on s'en va. Et Jésus demande aux apôtres s'ils vont partir. Je crois que c'est un moment extrêmement important. Et alors là, Pierre se précipite pour parler au nom des douze. Il n'est pas si sûr. Hein. Puis c'est la générosité de Pierre. Pierre fait une confession de foi. Et Jésus révèle qu'au milieu des douze, il y a un démon. Donc selon l'évangile de saint Jean, on pourrait dire que Judas s'est séparé des douze tout en restant avec eux quand Jésus prophétiquement a annoncé l'Eucharistie. Et donc la trahison de Judas provient d'un manque de foi dans le mystère de l'Eucharistie, d'un refus à l'égard de l'Eucharistie. Le pain des pauvres. C'est assez significatif. Je crois que c'est important, ça, pour que nous comprenions mieux comment, à l'intérieur même des disciples, il y a eu une brisure. Et nous la voyons très vite. Une quantité de disciples s'en vont et Jésus annonce. Judas aurait dû quitter à ce moment-là. Au milieu de vous, il y a un démon. Judas sait très bien ce que ça veut dire. Puisque Judas, dans le fond de son cœur, n'accepte pas la parole de Jésus. Cette parole est trop dure. Et Judas reste. Donc, il y a là quelque chose de très important, parce que nous entrons, si vous voulez, dans les luttes intestines. À partir du chapitre 6, nous entrons dans les luttes intestines. Et du chapitre 6 au chapitre 12, nous pouvons dire que nous sommes en présence non plus des prémices et des éclosions, mais des grandes luttes. Et parce qu'on est en présence des grandes luttes, c'est très difficile de découvrir un ordre. Alors c'est pour ça que là, on serait tenté de dire non, ne cherchons pas d'ordre. Il faut être tenace, il faut essayer de découvrir. Pourquoi les luttes ? C'est la signification des grandes luttes. Pourquoi les luttes? Pourquoi Dieu permet-il les luttes? Pourquoi Dieu permet aux démons un tel pouvoir? Parce que comprenons bien, là l'Apocalypse peut nous aider. Le démon a attaqué personnellement Jésus. Les synoptiques le montrent, Luc le montre. Jean ne vous donne pas parce qu'il a communiqué à Luc. C'est pour ça que Luc a quelque chose de particulier. Donc il nous montre les tentations de Jésus au désert. Et là, c'est dans un duel. Le démon ne s'avoue jamais vaincu. Jamais. Parce qu'il est orgueilleux. Un orgueilleux ne s'avoue jamais vaincu. C'est le propre de l'orgueil. Et donc, le démon reprend tout à travers la bête de la terre et la bête de la mer, selon l'Apocalypse. Et vous comprenez très bien, la bête de la terre et la bête de la mer, c'est justement une stratégie du démon, c'est de se servir de l'homme pour lutter contre Jésus. Ce n'est plus le démon directement, c'est le démon qui se sert des hommes. Et c'est pour ça qu'on appelle la bête de la terre et la bête de la mer. Alors, c'est facile à comprendre, hein? Le démon se sert de Judas, c'est sûr. Le démon se sert des autres. Et ainsi de suite. Alors nous avons la bête de la terre et la bête de la mer qui vont encercler Jésus. Mais il faut toujours deux complices pour abattre quelqu'un. Pour que Jésus puisse être abattu, il faut deux complices. Il fallait un complice à l'intérieur des amis, il fallait un complice à l'extérieur. Et les deux vont se rejoindre. bête de la terre, bête de la mer. Oui, c'est important de saisir, pour bien saisir ces grandes luttes. Parce qu'à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 12, nous sommes en présence de la théologie des luttes. Et en même temps, la révélation de la théologie des luttes. Alors, dans cette théologie des luttes, pour aller vite, puisque Dieu permet les luttes, il permet les luttes pour que l'amour grandisse, pour qu'il n'y ait plus aucune gloire humaine, pour qu'il n'y ait plus aucun orgueil, pour que on soit le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. C'est pour ça les luttes. Et donc, c'est le mystère des présences de Dieu qui va se manifester. Donc, premier moment, les prémices, deuxième moment, la théologie des luttes. Eh bien, dans cette théologie des luttes, si vous lisez attentivement Jean, vous voyez que Jésus affirme 7 fois sa présence. Je suis le pain véritable. Je suis le pain, premièrement. Deuxièmement, je suis la lumière. Je suis tout court. La grande révélation de l'oreille. Donc, je suis le pain, je suis la lumière, je suis. Puis, à partir du chapitre 8, dans un rythme très accéléré, je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis le Fils de Dieu. Et la dernière affirmation, je suis la résurrection. Vous avez donc 7 affirmations de la présence de Jésus. Encore une fois, ce n'est pas pour retrouver le chiffre 7, hein, mais c'est quand même très curieux. C'est ça qui donne l'unité à ces grands mystères de lutte. Et nous avons donc, dans cette seconde partie de l'évangile de Saint Jean, de la mission du Christ, la théologie des luttes et la théologie des présences. Ce qui serait très beau à faire. Les 7 présences de Jésus. Les 7 présences de Jésus. La présence de Jésus comme pain. La présence de Jésus comme lumière. La présence de Jésus comme je suis. La présence de Jésus comme la porte. Alors vous voyez, c'est assez facile de mettre des parallélismes entre les 3 affirmations, l'agneau, l'époux et le fils. Pour vous montrer combien l'évangile de Jean est organique, selon un ordre de l'Esprit Saint. Le pain, c'est l'agneau. La porte, c'est l'agneau. La lumière, c'est l'époux. Le bon pasteur, c'est l'époux. Le Fils, évidemment, je suis. Et je suis le Fils de Dieu. La résurrection, je suis la résurrection. C'est le mystère de Jésus et de tout le corps mystique. Il est la résurrection. Et c'est pour ça que Jésus ressuscité implique notre résurrection. Parce qu'il est la résurrection. Et on commence par Lazare, c'est très beau du reste. Hein, parce que Lazare, c'est justement ce qui va annoncer la résurrection du Christ et en même temps ce qui montre le rayonnement de la résurrection du Christ. Et le rayonnement de la résurrection du Christ, c'est surtout ses membres. Donc, je suis la résurrection, c'est la dernière présence ultime, nous sommes tous liés à ce mystère de la gloire. Donc, vous voyez que cette seconde partie est très importante. Elle est difficile parce que c'est les mystères des luttes, et c'est jamais drôle les luttes. Et le paroxysme de la lutte, c'est le chapitre 8. Ça, c'est le paroxysme de la lutte. Quand Jésus, dans le temple, déclare « Votre Père, c'est le démon ». Je crois que ça, c'est le paroxysme de la lutte. Il a dit ça pour Judas, il le dit maintenant pour ceux qui refusent son enseignement et qui n'acceptent pas son enseignement. Votre père, c'est le démon. À partir du chapitre 12, nous entrons dans la dernière semaine, ce que nous allons voir ensemble. La grande semaine, même si nous avons vu déjà un peu, je crois que c'est bon de la reprendre. Donc la troisième partie, la dernière semaine. Vous savez que les pères cappadociens aimaient ponctuer toute la révélation par les trois semaines. La semaine du Père, la semaine du Fils, c'est la semaine de l'Esprit Saint. La semaine du Père, c'est la création, les sept premiers jours. La semaine du Fils, c'est celle qui commence l'évangile de Saint Jean. À partir du premier moment où Jean-Baptiste découvre l'agneau, jusqu'au moment de Cana. Cana, c'est le septième jour. Le jour du repos du Père, le Fils travaille. Très beau ça. Le jour du repos, et c'est peut-être, voyez, pour ça que le jour du sabbat, il y a de fait la résurrection, si vous voulez, le miracle. C'est très, très grand ça, de voir première semaine, la semaine du Père, qui se termine par le repos du Père. Il faut beaucoup aimer le repos du Père. Hein, le repos du Père. Et le sabbat est là pour le repos du Père. C'est-à-dire pour nous faire comprendre comment nous rejoignons ce repos du Père par l'adoration. La seconde semaine, c'est le début de l'évangile de Saint Jean qui nous le montre. À partir de la révélation de Jean-Baptiste jusqu'à Cana. Comptez bien, vous avez sept jours. Et le septième jour, c'est Cana. Et le septième jour, c'est Jésus qui transforme l'eau en vin. Et donc, c'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est le Fils qui reprend toute l'œuvre du Père. Et la dernière semaine, c'est la semaine de l'Esprit Saint. Puisque la dernière semaine se termine par le don de l'Esprit à Marie. Il y en a trois qui rendent témoignage, le sang, l'eau, l'Esprit. Et ceci se réalise à la croix. Alors nous allons essayer d'entrer dans cette dernière semaine qui commence encore par un repas. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit, vous avez dans Saint Jean toute la grande théologie des repas. On la reprendra peut-être au terme, parce que c'est quand même important de faire la théologie des repas. Et comme il y a la théologie de la présence, il y a la théologie, c'est ça la richesse de Jean. Hein. On comprend très bien comment dans toute la grande tradition grecque, on considère Jean comme le théologien. Et au fond, notre théologie se termine dans l'évangile de Saint Jean. Et toute la théologie est faite pour mieux comprendre l'évangile de Saint Jean. Pour lire en profondeur l'évangile de Saint Jean. Alors ce que je vous donne là, vous voyez, c'est un ordre de l'économie de l'évangile de Saint Jean. Et cette économie de l'évangile de Saint Jean nous aide beaucoup à entrer dans le mystère. Ça nous aide à aller plus loin, à mieux comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, que tout l'évangile de Saint Jean, c'est pour nous faire comprendre le sacerdoce du Fils bien-aimé. Alors vous allez voir que cette dernière semaine est développée par l'évangile de Saint Jean, et est développée dans l'évangile de Saint Jean d'une manière unique. Du chapitre 12 au chapitre 21. Au chapitre 20, je veux dire. Puisque chapitre 20, c'est la résurrection. Donc du chapitre 12 au chapitre 20, et des grands chapitres. Parce que vous avez déjà, hein, premier moment, hein, du chapitre ici, du chapitre 2 au chapitre 6, excusez, du chapitre 6 au chapitre 12. Les grands buts, ça prend déjà pas mal de place. Hein. Mais la dernière semaine, du chapitre 12 au chapitre 20, c'est croissant. Hein. Alors évidemment, les chapitres, hein, c'est nous. Ça a été mis après, c'est pas Jean qui les a mis. Alors c'est simplement pour ponctuer. Mais ça correspond à un développement très vaste. Je n'ai pas compté le nombre de mots qu'il y avait pour la dernière semaine comparativement. Ce serait intéressant. Quelqu'un qui peut faire ça peut faire le compte. Ça a dû être fait du reste. Ça dépend. Ça dépend si on, ça dépend si on a ponctué de cette manière-là. Je n'ai pas vu beaucoup. J'en avais parlé beaucoup au père Braun quand il était à Fribourg, mais le père Braun, lui, a pris beaucoup plus en son Saint-Jean les grands thèmes de Saint-Jean. J'aime mieux suivre Jean dans son développement propre. Et je crois qu'en suivant Jean dans son développement propre, on voit mieux l'économie de la mission du Christ. Et c'est quand même ça qui est important pour nous. Oui, surtout après Vatican II, redécouvrir l'économie de la mission du Christ et redécouvrir Jésus comme agneau, comme époux, comme fils. Et vous voyez, jusqu'au bout, on découvre Jésus comme agneau, le pain, la porte. Jésus comme époux, la lumière, le bon pasteur. Et Jésus comme fils. Et alors, l'ultime et dernière synthèse, je suis la résurrection. Dans cette dernière semaine, la lutte connaît son paroxysme. Et si la lutte connaît son paroxysme, c'est très difficile de s'y reconnaître. Et puis il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier dans cette dernière semaine. Ce que les pères de l'Église aiment de dire, la grande kénose du Christ. Le grand anéantissement du Christ. Et c'est pour ça que vous avez, dès le point de départ, nous allons ponctuer successivement cette dernière semaine. Vous avez dès le point de départ Jésus qui répond à des initiatives. Jésus ne prend plus l'initiative, mais il répond à des initiatives. Et vous avez trois réponses de Jésus. Une réponse de Jésus à l'initiative de Marie, la sœur de Lazare. Jésus prend l'initiative en présence des attaques de Judas. Seconde réponse de Jésus, l'initiative de son peuple qui vient au-devant de lui avec des rameaux d'olivier. Jésus répond à son initiative. Troisième réponse de Jésus aux initiatives des Grecs. C'est quand même très étonnant, vous voyez, le cercle s'agrandit. C'est la seule fois dans l'évangile de Saint Jean où on voit Jésus face aux Grecs. Selon le père Spic, Jésus parle les Grecs à Jérusalem, étant donné qu'à ce moment-là, la koiné, le grec, était déjà très répandu. Et donc, il y a beaucoup de chances que Jésus parle les Grecs à Jérusalem. C'est intéressant de voir que ce jour de la Pâque, il y avait la montée de tous ces Grecs. Ce n'est pas pour la première fois, ça se faisait. Les Grecs venaient à Jérusalem, pas seulement les Grecs, hein, mais des quantités d'autres, parce que on avait un respect vis-à-vis de cette révélation du Dieu unique, le monothéisme. Et donc tous ceux qui avaient une âme religieuse montaient à Jérusalem pour adorer l'unique vrai Dieu. Alors vous avez ces trois réponses de Jésus. Réponse à Judas, réponse à son peuple, réponse aux Grecs. Vous avez ensuite les adieux de Jésus à son peuple. Et la réflexion de Jean le théologien par rapport au peuple d'Israël. Pourquoi Jésus n'a pas été reçu par son peuple? C'est très important, cette réflexion de Jean. C'est un peu la clé. Et je crois que c'est très important. Puis à partir, et puis de nouveau, les adieux de Jésus à la foule, à son peuple. À partir du chapitre 13, nous entrons dans les initiatives du Christ. Le lavement des pieds. C'est une fameuse initiative. C'est une initiative extraordinaire. Jésus qui prend l'initiative après la Pâque ancienne, avant la nouvelle Pâque, le lavement des pieds. Mais je crois que ça, c'est quand même très important. On le verra. Première initiative. Deuxième initiative de Jésus, le commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Troisième initiative de Jésus, le grand enseignement sur le paraclet. Enseignement prophétique. Et quatrième initiative de Jésus, la prière, qu'on dit prière sacerdotale, on pourrait dire la prière du Fils bien-aimé. Et je crois que c'est mieux de dire la prière du Fils bien-aimé. C'est vraiment la prière du Fils bien-aimé qui s'adresse au Père. Nous avons donc quatre initiatives. Puis ensuite, nous avons de nouveau Jésus qui se laisse emmener. Il ne prend plus les initiatives. Il est emprisonné. Comme un brigand. C'est l'arrestation. Jean ne nous raconte pas l'agonie. Il faudra voir pourquoi. Comme Jean ne nous dit rien sur l'institution eucharistique. C'est très important de comprendre les blancs de Jean, vous voyez. Les grands silences de l'évangile de Jean. Il y a les grands silences de l'évangile de Jean. Il faut les comprendre. Il faut essayer de saisir pourquoi. Alors, vous avez Jésus arrêté comme un prisonnier. Jésus face au grand prêtre. Jésus face à Pilate. Il ne prend pas d'initiative, hein. Il est mené comme un brigand, comme un condamné. Et Jésus condamné après la flagellation, après le couronnement d'épines, tout le récit de Saint Jean. Jésus condamné à la crucifixion. Après avoir préféré Barabbas à Jésus. Et quand Jésus est sur la croix, après le chemin de croix, nous avons encore trois initiatives de Jésus. Trois initiatives de Jésus du haut de la croix. Jésus n'a plus aucune liberté politique et liberté liturgique. C'est le plus difficile, perdre sa liberté liturgique en tant que novice. Plus aucune liberté politique et liturgique. Et Jésus n'a plus qu'une initiative toute personnelle, toute intérieure. Il est libre intérieurement. Il nous donne sa mère. Il y a le cri de soif et l'offrande de sa vie. Trois initiatives. Jésus devance l'heure de sa mort. Il devance l'heure de sa mort. Jésus n'a pas laissé, j'allais dire, les blessures de la flagellation, la crucifixion, opérer son effet selon son rythme, selon sa violence. Il a devancé la mort pour bien nous faire comprendre qu'il offrait librement sa vie. Pour mieux nous faire comprendre l'aspect extérieur de la crucifixion et l'aspect intérieur du sacrifice. Ce que nous verrons, du reste, parce que ça, je crois que c'est très très important. C'est là où on a la grande théologie du mystère de la rédemption. Donc, trois initiatives et ensuite, le coup de lance. La plus grande des passivités est le sépulcre. C'est un geste. Ça se termine par deux gestes. Vous voyez donc que vous avez cette initiative entourée des grands anéantissements. Des trois réponses, des grands anéantissements, alors il faudrait les ponctuer, et puis ensuite, l'ultime anéantissement, le coup de lance et le sépulcre. Alors, nous essaierons d'entrer dans ce que représente cette dernière semaine et de comprendre la signification de ces initiatives au milieu de ces anéantissements. Pour avoir une lecture de théologie mystique, c'est ce que nous essayons de faire, une lecture de théologie mystique de ce que nous donne Saint Jean, pour essayer de pénétrer le plus avant possible dans cette révélation de l'amour.